Bonjour tout le monde! Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Myriam. Je suis à l'Oasis depuis avant ma naissance, donc depuis que je suis dans le ventre de ma maman. Dieu m'a enseigné à travers ce programme-là. Oui. Donc, merci Seigneur vraiment pour l'opportunité que tu me donnes de vraiment partager mon expérience. Et Seigneur, je te prie de me donner la confiance d'être vulnérable puis de partager ce que tu mets sur mon cœur, Seigneur. Je te prie d'ouvrir les cœurs des gens de l'Assemblée à vraiment recevoir ce que tu veux leur dire et que tu puisses tous nous remplir de ton esprit en ce matin. Amen. Oui. Donc, retour sur Life Teams, formation de travailleurs jeunesse. Donc, c'est ça. Comme mentionné, je vais vous parler un peu de ce que Dieu m'a montré à travers l'année, à travers différents aspects de Life Teams. Donc, j'en ai choisi 4 principaux. Donc, je vais parler un peu de mes cours théoriques, de mes stages pratiques, de nos semaines de mission et de la vie commune, parce qu'on était 7 jeunes adultes à habiter ensemble dans une maison. Et vous pouvez vous imaginer que des fois, c'est ça qu'ils ont. On va y retourner. Donc, premièrement, je vais commencer par vous expliquer un peu c'est quoi Life Teams. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est une école de formation de travailleurs jeunesse. Donc, sur le site web, ce qui est écrit sur le site web de Life Teams, c'est que notre mandat est unique, former de jeunes missionnaires urbains qui entrent dans le monde des jeunes marginalisés et vulnérables à travers le Canada, avec l'amour de Jésus qui change les vies. Donc, le but du programme, c'est vraiment développer des missionnaires urbains puis nous apprendre comment bien prendre soin des jeunes vulnérables. Donc, en premier, les cours théoriques. Donc, nos cours théoriques, on en avait 2 jours par semaine. Donc, on avait une salle de classe dans le sous-sol de notre maison où est-ce qu'on faisait la plupart de nos cours. On avait différents enseignants, on avait des invités qui venaient parler du monde vraiment, vraiment bon. Honnêtement, probablement surqualifiés pour le programme, définitivement, qui ont comme des doctorats dans plein de domaines différents, des doctorats en théologie. Donc, c'était vraiment incroyable comme expérience de pouvoir être là puis absorber un peu ce qu'ils nous enseignaient. Donc, les cours qu'on avait, c'était vraiment tout relatif au travail jeunesse. Donc, on avait des classes comme comment communiquer la vérité de Dieu aux jeunes, des classes sur la pauvreté, la justice et l'engagement jeunesse. Et ouais, la plupart de nos cours, c'était sur les difficultés des jeunes marginalisés et comment Jésus nous appelle à leur venir en aide. Donc, tous nos cours, c'était vraiment autour de ça. Ensuite, on avait aussi beaucoup de devoirs qui venaient avec ça. Donc, au début de chaque mois, on recevait un paquet de papier qui expliquait tous les devoirs qu'on avait à faire. Puis là, on avait environ 4-5 semaines pour tout remplir au fur et à mesure que le mois avançait. Et ouais, au début, je trouvais ça assez stressant. Moi, j'étais habituée de recevoir, tu sais, tu reçois un devoir, puis là, tu dis, ah, t'as 2 semaines pour le faire. Mais là, c'était comme une liste, puis tu vois toutes les choses que t'as à faire dans un paquet différent. Et ça me stressait assez beaucoup. Ouais. Donc, à cause de ces devoirs-là, à cause de la charge de travail, j'étais toujours stressée, puis j'avais l'impression que je devais toujours être en train de travailler. J'avais honte quand je prenais des pauses, parce qu'après ça, je regardais la liste de travail, puis je me disais, je peux pas prendre de pause, là, j'ai encore toutes ces choses-là à faire. Je projetais vraiment mes insécurités sur les autres, donc j'étais fâchée quand je voyais qu'eux, ils prenaient des pauses, puis j'étais comme, mais là, eux aussi, ils ont des devoirs à faire. On a la même liste de choses à faire. Donc, pourquoi est-ce qu'eux, ils prennent des pauses, puis moi, j'en prends pas, puis je peux pas. Moi, j'ai pas le droit d'en prendre, mais eux, ils en prennent. Donc, je pensais vraiment que ma valeur dépendait de ma productivité. Puis c'était difficile pour moi de, justement, dans ces moments-là, être capable de m'arrêter, de prendre des pauses et, ouais, de laisser le Seigneur vraiment juste me donner ma valeur. Donc, ouais, à travers ça, j'ai passé beaucoup de temps en prière par rapport à ça. Et Dieu m'a révélé, pendant que je lisais dans Éphésiens, que j'ai pas besoin d'être productive pour être aimée. Donc, je vais vous lire Éphésiens 2, 8 à 10. « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, à travers ce verset-là, Dieu m'a fait réaliser que j'avais vraiment un problème d'orgueil par rapport à ma productivité, que c'était vraiment pas quelque chose que lui m'appelait à faire. En essayant de trouver ma valeur dans le travail que je faisais, ça fonctionnait pas, parce que c'est pas pour ça qu'on a été créé. Donc, une fois que j'ai commencé à absorber cette vérité-là, c'était beaucoup plus facile pour moi d'être patiente envers les autres. Puis quand je voyais que les autres faisaient pas leurs devoirs, j'étais comme « OK, mais c'est pas grave, parce que leur valeur vient pas de leur productivité, de la même manière que ma valeur vient pas de ma productivité. » Donc, ouais, ça c'est pour les cours théoriques. Ensuite, stage pratique. Donc, on avait des stages pratiques 2 autres jours par semaine. Donc, pour nous, c'était les mercredis et les vendredis. Donc, on était séparés en paires. Mais vu qu'on était un nombre impair, moi, j'étais toute seule. Donc, on était séparés dans différents ministères de Jeunesse sans limite, qui est l'organisation qui était en charge du programme de Life Teams. Donc, moi, j'ai été placée dans une école secondaire, spécifiquement avec des élèves en 8e année. Donc, dans le fond, chaque mercredi et vendredi midi, on faisait de la supervision durant le dîner. Donc, on s'assurait que les jeunes ne causaient pas de troubles. On pouvait comme commencer à avoir des interactions avec eux, commencer à vraiment bâtir des relations avec eux. Ensuite, les jeunes avec qui on connectait bien ou qu'on sentait que Dieu voulait qu'on aille vers eux, on les invitait à un club qu'on avait à l'école les mercredis après-midi. Donc, dans ce club-là, malheureusement, on n'avait pas le droit de parler de Dieu, vu que c'était dans les enceintes de l'école, mais c'était vraiment une belle opportunité pour juste partager l'amour de Dieu, puis un peu leur montrer à quoi des adultes saints ont de l'air. Donc, c'était un endroit où est-ce que ouais, on faisait plein d'affaires différentes. Il y a souvent un groupe qui allait à l'extérieur pour jouer au basketball. Moi, d'habitude, je restais à l'intérieur, jouer à des jeux de société avec certains des jeunes, puis avoir des conversations à propos de plusieurs choses différentes. Donc, à partir de ces connexions-là, les vendredis après-midi, on faisait des visites, soit chez les jeunes, où on les invitait à comme prendre une slush, parce qu'ils n'ont pas le droit de boire de café. Et ouais, à juste avoir des conversations plus profondes, puis essayer de leur parler de Dieu s'il était ouvert à recevoir ça. Donc, à l'école où est-ce que j'étais, 90% des élèves étaient Punjabi, donc venaient de la région du Punjab, qui est au nord de l'Inde. Donc, la majorité des élèves étaient croyants, mais sikhs. Donc, c'était pas des chrétiens. Mais c'était vraiment intéressant de pouvoir apprendre de leur culture et juste voir que, en fait, les religions, ils viennent toutes, que sont toutes des religions qui sont à la recherche de Dieu, mais qui sont perdues. Donc, ça nous donnait vraiment l'opportunité à travers ça de leur dire comme, « Hey, c'est cool ce que tu crois, mais comme, on essaie de rapporter un peu plus les choses vers Jésus. » Donc, ouais, au début, quand j'ai commencé mon placement, j'étais assez intimidée parce que les élèves de 8e année ont beaucoup de jugements. Et ouais, ça me stressait un petit peu de devoir leur parler. J'étais comme, mais là, c'est sûr qu'ils vont me juger. Mais là, en retour, vu que j'avais peur d'être jugée, je les jugeais aussi en retour, ce qui est vraiment pas ce que Dieu m'appelle à faire. Et je voulais vraiment leur plaire. Donc, s'il y a des jeunes qui faisaient comme des blagues inappropriées, des blagues de mauvais goût, souvent je riais, même si c'était pas vraiment drôle. J'avais plus envie d'être amie avec eux que d'être une amie adulte, parce que j'avais envie de leur plaire. Et je prenais un peu de ma valeur. Oui, c'est ça, je prenais de ma valeur à quel point que je leur plaisais. Mais ouais, à cause de ça, j'avais vraiment beaucoup de misère à être ferme. J'avais de la misère à mettre des limites, puis à être capable de leur dire comme, hey, on est à l'école, là. Comme, relax. Donc, ouais, c'est ça. Mais quand j'ai prié avec Dieu par rapport à ces insécurités-là, Dieu m'a révélé que j'ai vraiment pas besoin de plaire aux autres pour être aimée. ma valeur vient pas du fait que les autres m'aiment ou non, ça vient vraiment juste du fait que Dieu m'aime. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. Donc, à partir de là, c'était beaucoup plus facile pour moi de ne pas juger les jeunes que je rencontrais, puis de plus être focussée sur le fait de donner l'amour de Dieu pour eux que d'essayer de recevoir de l'amour d'eux, des jeunes de comme 13 ans. Donc, oui, c'est pour les stages pratiques. Ensuite, les semaines de mission. Donc, durant l'année, on a eu beaucoup de semaines de mission différentes. Donc, dans le fond, à quoi ça avait de l'air, c'est qu'on recevait des jeunes dans notre maison de différents endroits au Canada. Donc, il y a deux semaines de mission qu'on a faites, que c'était des élèves qui venaient d'une école chrétienne en Saskatchewan. Donc, durant ces moments-là, on était environ 50 dans la maison. Puis la troisième semaine d'émission, c'était des élèves de différents programmes de Jeunesse sans limite qui venaient d'Alberta et du Manitoba. Donc, durant ces semaines-là, il fallait vraiment bien se préparer. C'est notre groupe qu'on devait tout préparer la nourriture pour la semaine qui était du samedi soir au vendredi matin. C'est ça, préparait tous les repas, on congelait ça, on préparait les enseignements, on préparait les moments de prière, les jeux, les moments de louange. Donc, tout le kit, vraiment, c'était nous qu'on organisait ça, évidemment avec la supervision de nos leaders du programme. Donc, les élèves qui venaient, il y avait environ de 15 à 19 ans. Donc, ouais, c'était un bon groupe de jeunes qu'on était. Et durant la semaine aussi, on était séparés en petits groupes et chaque groupe allait dans un différent ministère qui venait en aide aux personnes qui vivent en pauvreté ou qui sont sans abri. Donc, nous, mon groupe, on allait toujours à l'Armée du Salut. Donc, durant cette semaine de mission-là, ce qu'on faisait avec les jeunes, c'est qu'on coupait de la nourriture, on préparait des repas, on lavait de la vaisselle, on allait offrir du café à différentes personnes sans abri. On allait visiter même ce qu'ils appellent là-bas « Tent City », qui veut dire « ville de tente ». Donc, c'est un endroit où est-ce qu'il y a plusieurs sans-abri qui vivent dans des tentes toutes compactées ensemble. Donc, on allait leur offrir du café, leur offrir vraiment des conversations. Puis, à travers ça, j'ai vraiment appris que la pauvreté, le plus difficile pour les gens, c'est pas toujours la pauvreté physique, mais vraiment la pauvreté spirituelle puis la pauvreté émotionnelle. Puis que les gens ont tout besoin d'un sourire comme ils ont besoin de nourriture. Oui, donc, pour ces missions-là, il y avait... On choisissait un leader. Donc, on votait pour élire un leader de notre groupe qui... C'est ça, justement, qui liderait l'organisation de ces semaines de mission-là. Donc, les deux premières semaines de mission, c'était mon ami qui l'a faite. Et pour la troisième semaine, c'est moi qui ai été élue. Donc, au début, j'étais vraiment, vraiment stressée. J'avais peur de laisser tomber mes leaders. Puis là, je voulais que tout soit parfait. Je faisais vraiment du micromanaging, donc j'allais voir toutes les équipes, là, j'étais comme « OK, c'est quoi que vous avez? C'est quoi que vous avez? » Puis là, je voulais m'assurer que tous les détails étaient complètement parfaits parce que je croyais que ma valeur dépendait de mon niveau de succès. Donc, je voulais vraiment avoir du succès dans tout ce que je faisais. J'étais comme « OK, mais là, si la semaine fonctionne pas bien, ben là, ça veut dire que je vais laisser tomber mes leaders, je vais laisser tomber mon groupe, je vais laisser tomber les élèves qui viennent. » Puis j'avais vraiment peur, justement, de laisser tomber les gens qui me faisaient confiance puis les gens qui s'appuyaient sur moi en tant que leader. Mais à travers ça, Dieu m'a révélé que j'ai pas besoin d'avoir du succès pour avoir de la valeur. J'ai pas besoin d'avoir du succès pour être aimé. Donc, ouais, j'ai appris vraiment à travailler pour rendre gloire à Dieu. Et à vraiment me recentrer sur la définition de Dieu d'avoir du succès, qui est vraiment juste faire sa volonté. Donc, ouais, être capable de vraiment me focusser sur le fait de rendre gloire à Dieu et pas sur l'approbation de mes leaders m'a vraiment libérée. Donc, en conséquence, j'étais beaucoup plus patiente avec les gens de mon équipe. Je me disais comme, OK, s'ils font pas les choses comme moi je le veux, ça veut pas nécessairement dire que c'est mauvais, parce que Dieu dit des choses différentes à tout le monde, puis que ma définition de succès est pas la vérité avec un grand V. C'est vraiment Dieu qui est la vérité avec un grand V. Maintenant, je vais parler de vie commune. Donc, je pense que ça, c'était la chose qui était la plus difficile et aussi la meilleure en même temps pour moi. Donc, ça, c'est des images de notre groupe et de la maison dans laquelle on restait. Donc, on était 7 jeunes de 18 à 22 ans. Puis, le monde venait vraiment de partout à travers le pays. Donc, moi, j'étais celle qui était le plus à l'est, au Québec. J'étais aussi la seule qui parlait français, ce qui était un peu dommage. Mais ouais, sinon les autres, il y en a un qui venait de l'Ontario, deux qui venaient du Manitoba, une qui venait de l'Alberta et deux autres qui venaient de Colombie-Britannique. Donc c'était vraiment plein de cultures différentes, puis plein de backgrounds différents, puis on était toutes réunies ensemble dans une maison à devoir essayer de nous gérer, se gérer les uns les autres aussi. Donc ouais, donc dans notre maison, on avait à l'étage supérieur la cuisine, la salle à manger, le salon et les chambres des filles et deux salles de bain. Et ensuite, l'étage en dessous, c'était les chambres des gars, une autre salle de bain, notre salle de classe, un piano, une bibliothèque, une petite bibliothèque et des bureaux pour les gens du staff. Donc ouais, vu qu'on avait beaucoup de personnalités différentes, beaucoup d'intérêts différents, évidemment, il y a certaines personnes qui s'entendaient mieux que d'autres, puis il y a certaines personnes qui avaient plus d'affinités que d'autres. Moi, par contre, d'habitude, je m'entends bien avec tout le monde, puis j'ai tendance à vouloir être celle avec qui les gens s'entendent le mieux, puis je veux être la personne qui est la préférée de tout le monde, ce qui était pas vraiment sain. Donc, quand je voyais des gens qui passaient du temps ensemble sans moi, quand je voyais des gens qui disaient comme « Oh, on est allé prendre une ride en voiture, on est allé prendre de la crème glacée », je me disais comme « Mais là, moi aussi, je veux y aller ». Puis j'étais rancunière que les gens ne passaient pas de temps avec moi. Donc, je croyais que ma valeur dépendait de l'attention que je recevais des autres. Et donc, quand les autres ne me donnaient pas d'attention ou quand je me retrouvais comme toute seule à la maison, je le prenais vraiment comme une attaque contre mon identité. Puis c'était vraiment dur pour moi de ne pas le prendre personnel. Puis d'être comme, OK, mais ça n'a pas rapport avec moi, c'est vraiment juste eux. Je n'étais pas capable de le croire. Je me souviens spécifiquement d'un moment où est-ce que quelques-uns d'entre nous, tous ceux qu'on avait nos passeports, on s'était rendus à Seattle, qui était comme 2 heures au sud de où est-ce qu'on restait. Et à un point, j'étais comme, on avait pris une pause, on était assis dans des marches d'escalier, puis il y en avait deux qui avaient une conversation ici, deux autres qui regardaient des photos, puis j'étais juste comme assise toute seule à regarder la vie. Puis j'étais comme, man, je me sens tellement seule en ce moment, même si j'ai mes amis à côté de moi. Donc, un coup que je suis revenue à la maison, j'en ai parlé un peu avec une de mes mentors, et elle me dit, OK, mais on veut demander où est-ce que Jésus était dans ce moment-là. Donc, j'ai prié. Et Dieu m'a dit, écoute, dans ces moments-là, il ne faut pas que tu sois rancunière envers eux parce que je suis avec eux, mais je suis aussi avec toi. Donc, j'ai vraiment vu l'image de Jésus qui était assis avec ces deux-là, Jésus qui regardait les photos avec les autres et Jésus qui était assis à côté de moi en train de regarder la ville. Donc, ouais, ça m'a vraiment permis de réaliser que la manière que les autres agissent envers moi n'impacte aucunement ma valeur parce que Jésus est toujours à côté de moi, toujours là, en train de me tenir. Donc, en conséquence, j'étais beaucoup moins rancunière envers les autres. C'était beaucoup plus facile de ne pas prendre les choses personnelles et, encore une fois, me rappeler que ma valeur vient de Dieu, vient pas des autres. Et ouais, donc c'est vraiment la chose principale que Dieu m'a enseignée durant cette année. Donc, en conclusion, Dieu m'a vraiment montré que mon identité vient seulement de lui. Mon identité vient seulement de mon Père céleste. Et Dieu dit que je suis tellement aimée qu'il a donné son fils pour me racheter. Et c'est ça ma valeur. Ma valeur, j'ai la valeur de, que Dieu donne son fils pour moi. Et la valeur que Dieu me donne, c'est la valeur que Dieu a pour chacun d'entre vous, pour tout le monde. Chaque personne que je rencontre, Dieu a donné son fils pour cette personne-là. Donc, c'était vraiment libérateur pour moi de recevoir ma valeur du Dieu de l'univers à la place d'essayer de recevoir ma valeur de d'autres pécheurs. Et évidemment, c'était pas toujours facile au courant de l'année. Une fois que Dieu me donnait ces vérités-là, c'était pas comme « Ah, oh, c'est parfait! Puis aucune insécurité! Puis là, tout va bien! » Mais non, Dieu devait vraiment me répéter jour après jour « T'as pas besoin d'être productif pour être aimé. T'as pas besoin de plaire pour être aimé. T'as pas besoin d'avoir du succès pour être aimé. » Et la manière que les autres agissent envers toi a vraiment aucun impact sur toi. Parce que moi, je suis plus grand que tout et moi, je décide que je t'aime. Et ça, c'était vraiment grand pour moi. Puis c'est vraiment quelque chose que j'espère que Dieu va pouvoir vous montrer et vous révéler et qu'il va pouvoir toucher vos cœurs avec certaines de ces vérités-là. Oui, donc c'est ça. Merci. Oui, donc ça, c'est seulement comme la pointe du iceberg de tout ce qui s'est passé. C'est vraiment un gros résumé. Mais si jamais vous avez des questions, si vous voulez entendre plus d'histoires par rapport à différentes choses que j'ai vécues durant mon année, venez me parler, vous pouvez m'envoyer des courriels ou m'appeler, puis ça me ferait vraiment grand plaisir de vous partager d'autres choses de mon année, parce que c'était quand même 8 mois et demi. Donc, beaucoup de choses se sont passées. Donc, oui, je vais terminer en prière avant de retourner m'asseoir. Oui, Seigneur, merci infiniment pour toutes les choses que tu m'as enseignées durant cette année-là. Merci, Seigneur, pour ta patience avec moi, puis de m'avoir vraiment rappelé ton amour pour moi. Merci d'avoir continué à te battre pour moi, Seigneur, même quand j'avais plus confiance en moi-même. Seigneur, je te prie vraiment de toucher les cœurs des personnes qui ont entendu ce que tu as partagé à travers moi ce matin, Seigneur. Je te prie de leur révéler ce que tu veux leur montrer, Seigneur, et de toucher leur cœur pour leur révéler leurs valeurs. Et que, ouais, les gens dans cette pièce et les gens qui vont écouter le message puissent vraiment réaliser que leur valeur vient de toi, Seigneur. Le Papa parfait, Papa céleste, qui a tout sacrifié pour pouvoir avoir une relation avec nous, Seigneur. C'est vraiment seulement de toi que vient notre valeur. Merci, Seigneur, pour cette valeur-là que tu nous donnes, qu'on ne mérite pas, mais que tu donnes gratuitement. Et Seigneur, je te prie de bénir aussi tous les papas dans cette pièce, les papas qui sont faits à ton image, Seigneur. Je te prie de les encourager dans leur rôle de papa et de leur rappeler que le travail qu'ils font, c'est du bon travail et c'est du travail important. Et Seigneur, je te prie de bénir la fin de la journée qu'on va passer ensemble, de bénir le temps qu'on va passer ensemble au parc, Seigneur, et de vraiment prendre tous ces temps-là en tes mains. Et je prie toutes ces choses au nom de Jésus, ton Fils. Amen.